D'abord, vous vous cassez la jambe. Alors, vous regardez par la fenêtre. Vos yeux sont tout injectés. Vous avez dû regarder par la fenêtre pendant des heures.
Vous ne croyez pas que l'un de nous pourrait changer?
D'un seul coup, ça me semble impossible.
Bonjour à tous. Bienvenue à Fenêtre sur cour. Une émission réalisée en partenariat avec la Cité de la CAF et avec le soutien de la Fondation de France. Vous êtes avec
Annie, André,
Maddy,
Guy,
Corinne
et Guylaine.
Nous sommes très heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, nous ouvrons plusieurs fenêtres. Rencontre du mois avec M. Guy Révéra, PDG de l'entreprise Mermoz. Coup de projecteur sur nos initiatives locales et entreprises innovantes. Ce mois-ci, coup de projecteur sur une berchtalienne, Julie Meunier. Elle a créé Semi-Lunaire, une entreprise basée à Paris. Elle crée des bijoux, sa plus grande passion.
Aujourd'hui, M. Ravra se joint à nous en studio. On est ravis de vous recevoir à Fenêtre sur cour.
Merci.
Alors, M. Guy Ravra, vous avez été PDG de l'entreprise Mermoz. L'entreprise Mermoz, c'est quelque chose qui parle aux Berjaliens. Pendant combien de temps est-ce que vous avez été PDG? Depuis combien de temps vous travaillez sur l'entreprise Mermoz? Dites-nous.
Alors, dans nos entreprises, nous rentrons jamais comme PDG. Hein. C'est de trop petites entreprises. Les grandes entreprises multinationales, on nomme un PDG qui peut changer d'entreprise et être à nouveau PDG d'une autre société. Nous, on monte tout doucement dans la hiérarchie. Donc, j'ai commencé comme ingénieur en chimie. Et puis, tout doucement, on a gravi les échelons. J'ai gravi les échelons pour devenir directeur technique, car c'est mon métier. Et puis, à la fin de ma carrière, j'ai passé 10 années en tant que PDG.
Et alors, jusqu'à quelle date alors? À quel moment?
2000. Je me suis arrêté à 2000 et j'ai passé pratiquement 40 ans dans la même entreprise. Ce qui est assez rare, ce qui est aujourd'hui quelque chose pour les plus jeunes de complètement périmé. On ne peut pas rester aussi longtemps dans la même entreprise. Mais quand on y est bien, qu'on est bien entouré et qu'on fait un métier qui est passionnant, on peut y rester toute une vie sans difficulté.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots l'importance de l'impression sur étoffe à Bourgoin-Jallieu? Parce que c'est quelque chose qui parle aux Berjaliens, ça aussi.
Oui, c'était une importance. J'ai dit c'était parce que malheureusement, là aussi, il y a eu un déclin et un déclin du textile en général. Et Bourgoin en a souffert aussi. N'oublions pas que Bourgoin est à quelques kilomètres de Lyon. Et que l'activité textile de notre région est liée, bien sûr, à la présence de Lyon, capitale de la soierie, je le rajouterai pour mémoire, qui a fait qu'on n'a pas travaillé dans la région que de la soie, mais c'était un des centres de travail de la soie, et que ce travail de la soie et des belles matières se traduisait par du tissage, car il faut faire un tissu déjà pour pouvoir lui rajouter ses lettres de noblesse, puisqu'on est dans l'ennoblissement textile, qui veut dire de bien le préparer, et puis d'ensuite d'en faire soit un tissu teint, ce qui est le plus habituellement modifié, ou la modification la plus importante du tissu, c'est de faire un uni. Mesdames, vous avez toutes porté, et vous portez encore beaucoup d'uni, et puis est arrivé aussi pour contrebalancer l'uni et mettre un peu plus de vie et un peu plus de couleur dans vos robes et dans vos vêtements, l'impression. Et l'impression, c'est mettre de la couleur sur du tissu, mais pas une couleur, ce sont des couleurs, beaucoup de couleurs. Et donc, il a fallu que ce métier se crée dans notre région, évolue, et l'impression a amené un autre corps de métier qui est la photogravure, car l'imprimeur ne peut rien faire sans l'outil que lui fabriquent les graveurs et les photograveurs. L'évolution? Mais oui, l'évolution, il y a une évolution. Il y a eu des périodes fastes qui a été après 40, 45, 50, où là il y a eu à Bourgoin-Jallieu des développements importants, en particulier dans la photogravure, puisque nous avons eu jusqu'à une quinzaine de photogravures à Bourgoin-Jallieu qui travaillaient pour la France entière, voire pour le monde entier, car nous étions devenus des grands spécialistes. Voilà, l'évolution, aujourd'hui, c'est un resserrement en volume, mais pas en qualité.
Vous avez dit que vous avez une formation d'ingénieur, mais ingénieur en quoi?
C'est la question piège. Pas piège, mais c'est... je suis ingénieur en chimie. Et il est bon ton de dire que la chimie mène à tout, hein, comme d'autres professions d'ailleurs. Quand j'ai fait mes études et que j'ai réussi à avoir ce diplôme d'ingénieur chimiste, je ne savais vraiment pas du tout si j'allais me retrouver dans un laboratoire d'analyse, dans un laboratoire de produits pharmaceutiques et autres, mais jamais je n'aurais pensé me retrouver dans les pâtes, jamais je me serais trouvé dans le tissu, jamais je me serais pensé me retrouver dans la couleur. Et pourtant, ben, les choses, si on avait le temps, je vous expliquerais comment, je me suis retrouvé dans une entreprise qui m'a tellement passionné que j'y suis resté toute ma carrière.
Quelles sont les différentes techniques de l'impression sur étoffe?
Alors, les différentes techniques, on balaye vite, hein, parce qu'autrement...
En quelques mots,
si j'y arrive. L'impression sur étoffe, dans ces périodes les plus anciennes, ce sont les Indiens d'Inde qui nous ont apporté, où on est allé chercher, parce qu'ils ne se sont pas déplacés eux, ce sont les grands navigateurs du 16e et du 17e qui sont allés chercher des épices et qui ont rapporté des toiles peintes qu'on a appelées par la suite les indiennes. Eh bien, comment étaient faites ces indiennes en Inde? Par des tampons en bois qui étaient gravés en relief, c'est-à-dire ils étaient creusés pour faire apparaître le relief. Ça a été le premier outil. Cet outil a continué à être utilisé en Europe, en France en particulier, jusqu'à ce que la chimie mette un petit peu son nez dans cet outil qui était particulièrement manuel, sa fabrication complètement manuelle. Il y a eu la découverte d'un produit chimique particulier, je vais passer le détail, qui nous a amené à la photogravure, c'est-à-dire que là, ce sont les UV, les ultraviolets, qui agissent sur une matière qui était tout simplement de la gélatine d'os, qui a beaucoup évolué depuis. Oui, bon, on fait bouillir, puis ça y est, ça fait une espèce de bouillon un petit peu épais. Et donc, on mettait ça sur un pochoir, c'est-à-dire sur un tamis. Et puis, avec une insolation, avec des motifs protégés, on a obtenu un pochoir. C'est de la sérigraphie. Donc, l'étape suivante, ça a été la sérigraphie avec tous les écrans, les cadres, qui sont utilisés encore aujourd'hui. En particulier, ce système-là permet de mettre le nombre de couleurs infini. Alors, on va dire, oulala, chic. Oui, non, chic, cher. Plus on met de couleurs, plus c'est cher. Mais ce qui permet encore à certains éditeurs de foulards bien connus en France et dans le monde, de faire des dessins de 40 couleurs. Alors que la mécanisation, dont je vous parle tout de suite derrière, limite le nombre de couleurs. Et la mécanisation, c'est le cylindre. C'est le cylindre que l'on pose sur une machine, sur un tapis permanent, et qui roule, et qui tourne, et qui peut se limiter à une dizaine de couleurs, pas plus, et on travaille mouillé sur mouillé. Et puis, je passe des cylindres de cuivre gravés, où là on faisait des choses merveilleuses, et d'un travail de gravure de cylindres exceptionnel. C'était des artistes, les gens qui faisaient ça, et des artistes discrets dans leur petit coin, et qui ont envoyé les beaux toiles, belles toiles de Jouy, qui ont fait le plaisir de tous les pays d'Europe, du monde. On est subjugué devant la qualité de la gravure de ces hommes-là. Et puis, eh bien, restons quand même dans l'air du temps, restons modernes. Aujourd'hui, la dernière façon de mettre, et j'en ai sauté beaucoup, hein, la dernière façon de mettre de la couleur sur un tissu, c'est le... J'ai failli dire inkjet, mais comme j'aime bien rester franco-français, c'est jet d'encre. C'est une imprimante qui vous permet, comme l'imprimante, de faire des millions de couleurs, puisque ce sont, à partir de la quadricromie de base, des mélanges de pixels qui font... Alors, j'emploie des mots qui me choquent un peu. Là, je laisse parler mon cœur. On est loin du travail manuel de ce regard attentif sur le moindre défaut, sur la moindre chose qui n'est pas correcte, qui n'est pas belle. Après, c'est de la technique pure. Alors on va me dire, oui, il y a de la création. Ah ben heureusement. Heureusement qu'il y a encore de la création. Parce que même avec cet outil-là, il faudra faire de la création. Et c'est là où nous sommes bons. Nous, Français.
En trois mots, là, pour illustrer pour les gens qui connaissent quand même moins le milieu, vous pouvez nous parler des différentes techniques au fur et à mesure pour arriver à un tissu imprimé?
Oui.
Fait quoi d'abord?
C'est simple. Ah ben, d'abord, je me promène en ce moment dans les petites classes et je leur dis, qu'est-ce qu'il faut pour faire un vêtement? Eh ben, il faut un fil. Un fil. Donc, on va commencer au fil. Alors, prenons l'exemple le plus joyeux, si je puis dire, qui est donc le fil de ce beau cocon de soie, qui est celui créé par le ver à soie, qui, quand il veut devenir chrysalide, s'enferme dans sa maison, donc sécrète un fil et il se ferme à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, il va vouloir sortir. C'est là qu'on l'arrête quand on veut faire de la soie en métrage, puisqu'il ne faut pas qu'il coupe ses fils. Donc, peu importe, on a un fil. On a un fil de soie. Et bien, le fil de soie, c'est un peu un fil électrique. Vous voyez ce que c'est qu'un fil électrique? Lame en cuivre, et puis tout autour du plastique, pour l'isoler. Eh bien, le fil de soie, c'est ça. La soie, elle est au cœur. Et autour, il y a du grès. Et du grès, c'est une matière qui n'est pas perméable. Ça veut dire que si on voulait imprimer sur une soie grège complètement, la couleur ne rentrerait pas, l'eau ne rentrerait
pas. Donc il faut traiter.
Donc il faut traiter et ça s'appelle décreuser. Et on décreuse la soie, puisque le grès est un produit soluble, c'est quand même le ver à soie qui l'a fabriqué, il est naturel, on va le dissoudre tout doucement à 90 degrés avec une eau savonneuse. Et puis on va s'arrêter là où on veut, car il faut garder un petit peu de grès quand même, parce que ça peut aider. Par exemple, on ne traitera pas le grès avant d'aller au métier à tisser, car le métier à tisser, il a besoin d'une solidité de fil.
D'accord. Ouais. Et après, on passe au tissage, alors.
Alors, on passe tout de suite au tissage. Après, on a le fil, on l'emmène au tissage, on va obtenir un tissu.
Oui.
Alors, on obtient un tissu si on a un métier à tisser. Mais si on a un métier circulaire, on va faire une chaussette, on va faire de la maille. Vous savez, les grands-mères qui tricotaient avec leurs trois aiguilles et puis la quatrième qui travaillait. C'est ça. Et mesdames, tout ce que vous portez, ou moi-même, en vêtements très, très, qu'on appelle de la maille, c'est fait comme une chaussette.
Hein. C'est mais pas, les autres sont faits à plat.
À plat, le reste, c'est un croisement de fils. Il y a, entre le croisement de fils et le tricotage, on fait une différence. Et après, le coloriste et l'imprimeur, ou le teinturier, il veut savoir qu'une chose, quel est le fil? Quelle est la structure de la fibre?
D'accord, mais c'est parlez-nous des étapes, je veux dire, pour arriver à... Qu'est-ce qu'on passe au niveau?
Je monte. Alors, on a préparé notre soie, on l'a décreusée. Donc là, maintenant, on a fait un tissu, on l'a décreusé, et donc, il est apte à recevoir de l'eau. Il est mouillable. Hein, on va pouvoir le mouiller, car dans toutes nos opérations, il faut mouiller. Si on ne peut pas, si on a un tissu hydrophobe, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit en impression ou en teinture. Voilà, donc il
donc
se mouille.
On mouille, on le sèche?
Ah non, mais il s'est mouillé, ça y est, c'est prêt. Ensuite, eh bien, si vous voulez bien, si on fait de la teinture, je vais éliminer le plus simple. J'ai rien contre nos amis teinturiers. Ils font un métier aussi très délicat. Mais la teinture, mesdames, vous savez ce que c'est. Hein, on met du colorant dans une bassine, ben là, dans une grande cuve. On chauffe, car le colorant monte en fonction de la température. Je dis monte, hein, car c'est l'expression utilisée. Le colorant monte sur la fibre. Ça veut dire qu'il commence à s'accrocher à la fibre en température dans des conditions particulières, de pH en particulier, car il faut se trouver dans tel ou tel milieu pour que ça grimpe bien.
Justement, comme vous nous parlez un petit peu de jargon, vous allez peut-être pouvoir nous parler de la cuisine à couleur, parce que moi, on m'a parlé de la cuisine à couleur et c'est un terme que je trouve assez savoureux. Racontez-nous.
Oui. Oh ben, c'est bien la cuisine à couleur. C'est un peu comme lorsque vous faites... mesdames et messieurs aussi, car il y a des grands chefs et puis même des papis comme moi qui faisons leur petite tarte aux pommes. Quand vous êtes dans la fabrication d'un plat ou d'un dessert, vous allez prendre de la farine. Ah oui, tiens, ça va épaissir ça quelque chose. Et puis vous allez rajouter des ingrédients, un peu de sucre, un peu de sel, un peu de ceci, un peu de cela, pour réussir votre plat. Eh bien, L'impression sur étoffe, je vous l'ai dit, c'est le paradis de la couleur. Et donc la couleur, bien il faut la fabriquer, cette couleur. Et cette couleur, ben on va mettre une pincée dans un récipient, une pincée de couleur poudre très concentrée. Je dis une pincée, ça se fait pas à la main comme ça. J'allais dire au pifomètre, ça veut dire que c'est pesé très précisément et on fait toujours une formule, une recette qui est valable pour un kilo de couleur.
Oui, effectivement, j'avais vu des espèces d'échantillons de couleurs qui se déclinaient, qui de plus en plus
même
foncées.
Même qui se dégradaient,
voilà.
sans mettre la connotation négative à dégrader, ça veut dire qu'on diminuait l'intensité de la couleur.
Ouais. Ça fait des jolies planches d'ailleurs.
Ouais, vous faites un rouge, vous avez un beau rouge, il est pur, ça veut dire qu'il est à pleine concentration, et puis tout doucement, vous pouvez rajouter de la farine, et avec un peu d'eau, et vous diminuez tout doucement la concentration du produit. Donc, tout naturellement, les gens qui étaient occupés à fabriquer ces couleurs, et à faire des dégradés, et à faire des mélanges, car il est très rare qu'un tissu imprimé contienne que des couleurs pures.
Oui.
Très souvent, si vous voulez obtenir un beige, par exemple, qui est la couleur la plus délicate à obtenir, vous pouvez l'obtenir en mélangeant des éléments de trichromie. C'est-à-dire, plus vous mettez de rouge, plus votre beige sera rougeâtre. Plus vous mettez de bleu, plus il sera verdâtre ou bleuté, etc. Mm-hmm. Et qu'un beige, j'avais des clients, c'était tel beige et c'était pas l'autre beige, hein. Car il le voulait pas verdâtre, il le voulait chaud. Et ben puis s'il le, vous voyez, on rentre presque dans la cuisine là encore. Il le voulait chaud. Ben pour moi, un beige chaud, c'est un beige un peu rouge, un peu feuille morte, un peu chaud. Quoi, il y a pas d'autre mot. C'est comme ça que je le vois et comme ça qu'on me le décrivait.
C'est plein de nuances tout ça.
Merci,
hein.
Merci oui. Monsieur Ravra. Mais si vous voulez bien, nous allons faire une pause musicale. Juste après, nous évoquerons les grandes étapes de l'entreprise Mermoz. On écoute.
Dans un ravissant équipage, emmitouflé dans mon plumage, je suis prête pour l'esclavage, prête à recevoir vos hommages, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Avec vos airs et vos guitares, vous êtes toujours sur le départ. Nous aurons des amours barbares, pleines de fièvre un peu bizarre. Mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Je me donne à vous en pâture, mais j'ai revêtu mon armure. Vous m'infligerez des tortures, tout le reste je le censure. Mais un fil de soie. Votre corps, vos lèvres m'attirent. Je vais succomber au plaisir, au charme aigu de vos désirs, avec soupir sans repentir. Mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Chaque seconde est un baiser, la terre a cessé de tourner, vous avez su m'apprivoiser, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Renversé dans des cachemires, nous pouvons frémir et gémir, vous m'avez fait refleurir, à en pleurer, à en pâlir, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Je le rends ma foi pour garder la joie, et je vous renvoie pour un autre roi.
D'entendre Jeanne Moreau, juste sur un fil de soie. Et nous reprenons donc la conversation avec Monsieur Ravra.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre clientèle, cette clientèle prestigieuse? Est-ce que vous les avez rencontrés? Comment? Est-ce que vous avez participé à des défilés? Voilà. Racontez-nous toute cette vie prestigieuse.
Oui. Vaste sujet, mais que je vais ouvrir avec beaucoup de plaisir, car avec les personnalités qui ont été les clients de la maison Mermoz, nous entrons de plein pied dans ce que la couture française représente de plus significatif, de plus créatif et de plus beau. Je ramène toujours à beau, car c'est un qualificatif qui convient beaucoup à ce que nous faisions. C'est bourré de technique, le travail de nos hommes, mais la finalité, c'est vous, mesdames, qui la voyez et qui la percevez. Et vous percevez quoi ? La beauté. Quand je dis « Ah, je vois comment est votre vêtement, je vois comment est fait votre foulard », vous dites « Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, il faut que je vous dise qu'il est beau. Parce que vous l'avez choisi à cause de ça. Alors comment fait-on du beau ? Comment faisait-il et comment font-ils encore tous ces créateurs ? Alors il y a des mélanges multiples. Je n'ai pas connu Coco Chanel, mais j'ai travaillé avec Chanel. Si vous voulez, il faut penser que tous ces grands noms de la couture française ont eu une personnalité qui a marqué leur société, leur entreprise, leur création. Derrière, il y a une foultitude de gens de petites mains, de grosses têtes qui disent « Le maître, il veut ça !» Ah, et comment va-t-on faire ça ? Allô, Mermoz ? Voilà, Ah, ben je monte à Paris, je vais voir. Parce que il faut que j'explique, autrement vous n'allez pas comprendre que ce que vous voulez, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que la technique se refuse de rentrer dans des passages interdits. On ne peut pas. Les colorants, il faut qu'ils tiennent. C'est fait pour être dégraissé, c'est fait pour être lavé, c'est fait pour être résisté au soleil, etc. Donc on ne peut pas, c'est pas une plaisanterie non plus. Quand vous avez un beau produit, si vous voulez le commercialiser correctement, il faut que ça soit un beau produit aussi. Donc il y a des choses qui ne rentrent pas. Donc finalement, très souvent, on allait parler avec, j'allais dire, les petites mains du grand chef ou de la grande cheftaine, qui avaient tout compris, qui savait ce qu'il fallait, à quoi nous devions arriver, et qui n'avaient pas les moyens de traduire eux-mêmes ça. Donc c'était notre rôle. Et donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de gens, peu de personnalités parce qu'ils ne sont pas toujours accessibles. J'ai rencontré de loin, sans passer trop de temps avec lui, M. Galliano, qui est un fou, un génie fou, car il est capable de se moquer de qui vous voulez en faisant défiler des demoiselles en petites culottes, petits bateaux, avec des casseroles aux fesses. Tout ça, c'est pour choquer. Mais c'est comme ça. Je les ai vus, puisque vous me posez la question. J'étais invité à beaucoup de défilés de mode. Et le défilé de mode, n'oublions pas, c'est le drapeau de la maison. Hein, c'est ce qu'on montre derrière ce qui va faire vivre tous ces gens-là et l'industrie française. Ce sont tous les gens qui vont travailler pour faire un produit de luxe accessible. Les défilés, souvent, comportent des vêtements qui ne se vendront jamais. C'est pour intéresser, c'est pour choquer, c'est pour créer l'événement. Mais si vous voulez, créer l'événement, quelquefois, c'est pas toujours facile. Et là, je rencontrais, bon, parmi les personnalités que j'ai rencontrées, qui sont moins connues, parce qu'ils ne sont pas au premier rang, je mettrai une personnalité forte qui s'appelle Madame Dumas Hermès, qui est décédée, Monsieur Jean-Louis Dumas, Hermès aussi, qui est décédé malheureusement, et qui étaient des personnages, des gestionnaires d'entreprises qui avaient un sens de la création, du bon goût, des belles choses, et avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler.
Alors on va peut-être un petit peu accélérer là parce que le temps passe. Alors on est passionné par tout ce que vous nous racontez. On voit que vous êtes toujours passionné.
Oui.
Vous êtes à la retraite depuis une dizaine d'années, mais vous vous investissez toujours autant. Et j'ai entendu dire que les meilleurs ouvriers de France vous tenaient à cœur.
Beaucoup, beaucoup, parce que je pense que c'est dans la nature des choses. C'est pas parce que j'ai été un responsable d'entreprise. J'aime bien le mot un chef d'entreprise. Ça veut dire le chef d'entreprise, c'est celui qui est responsable des autres. Hein? Ça veut pas dire celui qui a tous les pouvoirs. C'est celui qui essaye de tenir la société dans laquelle il travaille en bon état. Et que ma non-connaissance du métier de l'impression en tant qu'ingénieur chimiste, on n'a pas fait d'impression à l'école de chimie, a fait que j'ai appris mon métier sur le tas avec les hommes. Et que j'ai compris, c'était familial aussi, c'était dans ma nature, plutôt que les grandes paroles des grands pontes et des grands découvreurs, qui des fois ne savent rien, j'aime mieux écouter les hommes du terrain, les hommes sur le tas, là, qui disent on fait comme ça, on fait comme ça. Alors ils ne savent pas souvent pourquoi on fait, donc c'était mon rôle de dire voilà pourquoi vous faites ça.
On pourrait dire apprentissage croisé.
Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ça. J'ai essayé de donner des raisons scientifiques à des savoir-faire centenaires, disons, sans qu'ils sachent réellement pourquoi on faisait ça. Mais il y avait, bien sûr, foncièrement, une raison. Et alors, comment dire, cet amour de ce travail de base par les hommes de base, et tout au haut de la hiérarchie, a fait que je me suis toujours passionné par les hommes et par leur métier. Et quand il y a maintenant une trentaine d'années, dans le syndicat, on a dit, tiens, on cherche, les meilleurs ouvriers de France cherchent un président national de l'impression sur étoffe. On a pensé, j'étais encore jeune à l'époque, que vous pourriez peut-être remplir ce rôle. J'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça correspondait bien à ma façon de voir les choses, à ma façon de voir travailler les hommes. Donc ça fait 30 ans que je donne des thèmes de concours, car c'est le rôle du président, c'est d'essayer de pousser les futurs candidats dans leur retranchement, dans leurs compétences, dans leur savoir. En ce moment, nous avons un concours qui est lancé, et je peux vous dire que l'examen final n'est pas facile, que j'ai même relancé des choses qui étaient un peu des savoir-faire, qui étaient un peu oubliés. Et j'ai senti qu'il était moment de secouer un peu le cocotier, parce qu'on peut s'endormir sur des savoir-faire beaux, mais relativement simples. Et je crains toujours ce savoir-faire trop simple, car il est trop facilement pillable. Hein? Donc, je pense que nous avons des savoir-faire dans notre pays qui sont extraordinaires, et que qui peut mieux que les meilleurs ouvriers de France peuvent les mettre en avant et les faire fleurir.
Alors, ça nous fait penser, on va passer peut-être à la place du textile de la France dans le textile d'aujourd'hui. Vous avez des idées sur ça, en fait, hein?
Aïe, aïe, aïe. Je l'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Oui, non, non.
Nous arrivons au terme de notre temps de parole.
Là, je vais essayer d'être plus court que d'habitude. C'est un problème mondial. La mondialisation, c'est un terme qui est souvent employé, mais qu'il faut bien... auquel il faut trouver des vraies significations. La mondialisation, c'est quoi ? Ça veut dire que dans tous les domaines, le monde entier peut fournir, peut proposer quelque chose.
Alors, qu'est-ce que la France a à offrir ?
Alors, la France, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais tout le monde est bien au courant, que nos coûts de revient sont importants. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Si c'est trop cher ceci, trop payé là, trop d'impôts, ça je peux y aller.
Non,
je risque rien.
C'est pas grave ça. C'est quelle est notre valeur ajoutée?
Notre valeur ajoutée aujourd'hui ne peut plus être dans les produits de base du textile. Peut-être que je vais m'attirer des foudres de certains, mais le produit de base, pas cher.
Il est fait ailleurs.
Est fait ailleurs. Et je pense que c'est la bonne raison. Hein, c'est pas cher et c'est bien fait. Alors nous sommes où ? Dans la création. Dans la création, dans les savoir-faire exceptionnels. La création,
dans l'innovation technique aussi.
L'innovation technique, je suis prudent, car si vous m'avez un peu entendu, quand je vous ai dit aujourd'hui, on peut faire de l'impression sur étoffe avec de l'informatique, hein, avec un logiciel, avec... Qu'est-ce qui est plus facile à pirater qu'un logiciel ? Hein, juste deux mots. Quand j'ai reçu des Chinois à qui j'avais ouvert l'usine Mermoz et qui me dit, monsieur, mais vous nous ouvrez vos portes, enfin, par l'intermédiaire de... Non, vous nous ouvrez votre usine, mais on peut tout voir. Je dis, vous pouvez tout voir. Vous n'aurez jamais les bras. Bon, C'est un peu ça, c'est assez court comme résumé. Nous avons la tête et certains bras. Et parmi ces bras, il y a des meilleurs ouvriers de France, bien sûr.
Eh bien, écoutez, nous vous remercions beaucoup, Monsieur Ravra, de votre disponibilité.
Et c'est moi qui vous remercie.
Pour terminer cette discussion, simplement, quand vous regardez un défilé à la télévision, évidemment, les vêtements ne peuvent pas être portés, mais il faut les regarder comme une œuvre d'art, parce que derrière, il y a une recherche importante. Et je pense que c'est comme un tableau de Picasso qu'on ne mettrait pas dans notre salon, mais qu'il faut regarder avec toute la recherche et toute la création qu'il y a derrière. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, nous invitons les auditeurs à visiter le musée de Bourgoin-Jallieu pour davantage d'informations. Ils seront peut-être étonnés de découvrir la richesse de notre musée et l'univers textile. Nous pouvons aussi participer à des visites commentées et assister à certaines démonstrations qui ont lieu lors des portes ouvertes du musée. Voilà, nous remercions Guy Ravra et c'est déjà été fait. Bien, c'est très bien. Pour faire la liaison avec le thème suivant et pour rester dans la mode, le chic et l'élégance, nous allons donner place à une créatrice bergalienne, Julie Meunier, qui est une créatrice de bijoux et qui nous présentera son entreprise qui s'appelle Semi-Lunaire. Voilà, maintenant nous avons une petite pause musicale avec Yves Montand qui va nous chanter « Les bijoux ».
La très chère était nue et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise. Ah, mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait d'épouse, et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras et sa jambe et sa cuisse et ses reins, poli comme de l'huile, ondule comme un cygne, passé devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, où calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unis par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin sur ce teint fauve et brun. Le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.
Couleur FM et à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour. Avec moi, Maddy, Guylaine, Annie et Corinne. Vous avez écouté Les bijoux, poème de Baudelaire.
Alors, aujourd'hui, on passe, toujours dans l'élégance, à une bergalienne qui a osé franchir le pas et créer son entreprise semi-lunaire. Avec nous, dans le studio, nous avons Annie, la maman de Julie. Alors, est-ce que vous pouvez, Annie, nous raconter quelques souvenirs d'enfance? Est-ce que dès son plus jeune âge, elle a eu la fibre artistique?
Alors, Julie a toujours aimé récolter des matériaux et puis bricoler. Elle a été beaucoup aidée quand elle était petite par les cours qu'elle prenait chez Empreinte. Elle faisait de la danse avec Madame Perrin, Odile, mais aussi les cours d'art plastique avec Catherine Pommier. Et c'est une personne qui leur donnait l'envie de créer, d'utiliser l'espace, de mélanger les couleurs, de tripoter tous les matériaux qu'elle pouvait trouver. Donc Julie a toujours aimé ça. À la maison, elle réinvestissait les cours et elle bricolait. Sa chambre, c'était le bazar. Bon, et puis plus tard, donc, je me rappelle du début de son entreprise, quand Julie a vraiment eu envie de monter sa propre entreprise. Alors là, je me rappelle, j'ai un souvenir pendant les vacances où elle a transformé la maison à la campagne en véritable atelier avec du cuir, des matériaux, des cutters, des tas de choses. Et elle a créé sa première collection. Et cette première collection, elle l'a embarquée dans une valise à roulettes. Et après, on est parti dans le sud. D'abord, Saint-Tropez, Marseille, Toulon, Aix-en-Provence. Et elle allait frapper dans les boutiques pour trouver des clientes. Voilà, je me rappelle de la joie quand elle trouvait une cliente et on allait arroser ça dans un petit café du Sud.
Alors, passons à Julie Meunier. Qui est Julie Meunier? D'où vient-elle? Racontez-nous.
Je suis bergalienne d'origine. J'ai grandi, je suis née à Lyon, puis je suis arrivée à Bourgoin à 6 mois. J'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici jusqu'à mon bac. Et j'ai aujourd'hui déjà 29 ans. Voilà, j'ai créé donc il y a maintenant 5 ans une marque d'accessoires de mode qui s'est plus, enfin, au fur et à mesure des saisons dessinée plutôt en bijoux fantasy.
Alors quel est le nom de cette marque ?
Semi-lunaire. Et donc ça fait référence à un petit os du poignet qui s'appelle le semi-lunaire, car au début donc des premières collections étaient essentiellement des bracelets manchettes assez larges, et du coup ça faisait référence à ce petit os du poignet. Du coup les manchettes venaient couvrir le poignet, et puis c'était un peu le petit nom qui sonnait bien, quoi.
Alors comment vous êtes arrivée à créer cette entreprise? Ça s'est pas fait tout seul. Qu'est-ce que vous avez fait comme études déjà?
Oui, alors après mon bac, j'ai enchaîné par des études commerciales et je me suis après spécialisée, j'ai fait un diplôme de chef de produit textile, donc plus marketing mais orienté mode textile. Et suite à ça, donc ça c'était à Mulhouse, et suite à ça je suis montée à Paris pour travailler. Donc j'ai travaillé 3 ans dans les accessoires de mode en fait, et je me suis au bout d'un certain temps j'ai eu la volonté de monter mon propre projet, et je me suis orientée vers les bijoux fantasy car c'était plus facile pour moi à mettre en œuvre, et c'était un truc qui me branchait bien, donc je me suis orientée là-dessus, quoi.
Et comment on décide de créer son entreprise? C'est quoi l'élément déclencheur?
Alors ça dépend des personnes, je pense. Pour moi, il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu vraiment la volonté d'avoir ma propre entreprise, quoi, de voler de mes propres ailes, parce que j'ai un métier. Enfin, je me suis orientée dans un secteur et qui demande, si on veut réussir, beaucoup d'investissement en temps et d'investissement personnel. Et j'ai eu envie de donner cet investissement pour ma boîte, quoi, en fait, hein, pour vraiment faire un truc à moi. Et puis voilà, c'était vraiment l'envie de monter mon truc, quoi, et plus d'indépendance, quoi.
Bon, Julie, alors présentez-nous quand même un petit peu plus précisément votre entreprise. Vous êtes quand même chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes seule à la gérer? Vous êtes plusieurs?
Bah en fait oui, j'ai commencé seule. J'ai commencé auto-entrepreneur pendant 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus exactement. Et j'ai recruté une première personne parce qu'il y avait vraiment besoin en production, besoin d'une personne en plus. Et donc ça fait 2 ans. Et il y a une deuxième personne qui est arrivée il y a 1 an à peu près. Donc on est 3 aujourd'hui à assurer. On a un atelier sur Paris, dans le 11e arrondissement, vers la Bastille, quoi. Et voilà, on est 3.
Et les personnes qui travaillent avec vous, quelles qualifications elles ont? Qu'est-ce que vous avez demandé pour qu'elles viennent travailler avec vous? Les métiers de la mode, plutôt la création. Vous travaillez beaucoup le cuir, hein, je crois.
Oui, je travaillais beaucoup le cuir. Je me suis orientée vers plus de matériaux aujourd'hui. Mais j'ai commencé en travaillant le cuir. C'est un matériau qui me plaisait. La souplesse, les effets, enfin, tout ce qu'on pouvait en faire, quoi. Mais oui, bah, les personnes qui travaillent avec moi ont fait des écoles de bijouterie. J'avais envie, moi-même n'ayant pas de formation technique en bijoux, j'avais envie de m'entourer de personnes qui aient cette formation-là pour pouvoir travailler des choses justement plus techniques. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne travaille pas que le cuir, on travaille plus le métal et en y apportant des choses de la soudure ou de la découpe, des choses comme ça.
Donc vous êtes bergalienne d'origine, comme vous avez dit au début, et pourquoi Paris? Pourquoi vous avez choisi donc vous installer dans la capitale?
J'aimais Paris, déjà, et puis le travail m'a emmenée là-bas. J'ai vraiment fait des études assez spécifiques dans le textile habillement, et j'aurais pu trouver du travail ici, mais j'ai eu envie de bouger à Paris, parce que la capitale, ça fait toujours un peu rêver, quoi, enfin pour certaines personnes, et puis le boulot m'a emmenée là-bas, quoi. Donc j'y suis allée, et puis je m'y sens bien, et j'y resterai encore quelques temps.
Dans quel quartier de Paris vous êtes?
À Bastille, dans le 11e arrondissement.
Là, vous avez un atelier, vous n'avez pas une boutique, vous n'ouvrez pas... Vous travaillez pour des boutiques.
On travaille, on vend à des professionnels. Pas de boutique, non. C'est peut-être plus tard, mais pour l'instant, on reste en tant que fournisseur de magasins.
Et moi, c'était des questions un peu plus techniques pour conseiller un jeune qui voudrait également se lancer dans un projet. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au départ de votre activité et quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer à son compte pour monter une petite entreprise ou une moyenne entreprise?
Il y en a plein des conseils qu'on peut avoir, mais pas avoir peur de l'investissement, du temps, parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel, travailler des week-ends, travailler des soirées. Enfin, en tout cas, ça dépend ce qu'on fait. On sait tous très bien qu'avoir une entreprise, c'est pas s'arrêter à 5 heures, quoi. Donc, il faut pas avoir peur. Mais après, si on le fait, je pense c'est qu'on est, on a la passion de ce qu'on fait. Donc, à un moment donné où bosser beaucoup, ça devient, c'est moins contraignant que quand c'est pour un boulot salarié, quoi, puisque du coup c'est pour son propre compte, donc c'est différent. Mais je pense qu'il faut, si on a envie, faut y aller, quoi. Après, faut pas avoir peur forcément faut réfléchir, mais pas non plus pas trop réfléchir. Après, c'est sûr que j'ai pas eu, moi personnellement, de gros investissements financiers à faire à la base. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir un peu me lancer sans trop me poser de questions. J'ai pas fait vraiment d'études de marché au préalable. J'y suis allée un peu comme ça, quoi. Je me suis lancée, je suis allée voir des clients et puis voilà, ça a accroché petit à petit et ça s'est développé comme ça. Ouais, il faut y aller, après faire attention à tous les aspects financiers quand même par la suite, quoi. C'est le problème auquel je me retrouve un peu confrontée aujourd'hui, c'est que j'ai commencé seule, j'étais auto-entrepreneur, j'avais pas du tout les mêmes charges que j'ai actuellement, et du coup j'ai fixé des prix qui collaient bien avant et qui maintenant nécessiterait d'être un peu augmenté parce qu'il y a plus de charges, et du coup il faut trouver des solutions après, quoi.
Quel est votre statut actuel? Toujours auto-entrepreneur ou si vous avez changé de statut pour pouvoir vous développer?
Non, j'ai changé de statut en 2011 et donc on est en SARL. Enfin, avec un seul gérant, puisqu'il n'y a qu'un seul gérant, mais voilà.
Et est-ce que vous avez reçu des aides tant administratives que physiques de gens qui vous ont aidé à démarrer, à fabriquer ou à vous mettre en route en quelque sorte?
Ouais, des aides familiales, on va dire comme ça. Mais franchement, ouais, il y a des au niveau financier, il y a des allègements de charges, mais franchement, on n'est pas forcément aidé, quoi. Donc c'est, il y a quelques allègements au début, mais ça permet pas de faire des choses incroyables, quoi.
En conclusion, il faut foncer et puis en vouloir, quoi.
Oui, je pense que voilà. Après, chacun sa personnalité, donc je pense que chacun sa façon de faire. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné et que ça continue de fonctionner, en fait. Donc, voilà.
Je voudrais savoir quelles sont vos sources d'inspiration.
Ça dépend de... Enfin, ça vient de plein de choses. Ça part soit de lecture, de bouquins, d'expos, de, bon, on va dire de voyages, c'est un peu les trucs classiques, quoi. Mais voilà, ça peut partir soit d'images qui me plaisent, ou soit de matériaux qui me plaisent et qui vont m'inspirer, qui vont me donner d'autres idées, ou l'apprentissage de nouvelles techniques aussi, qui donne de nouvelles idées quand on apprend de nouvelles façons de travailler les matériaux. Après, on s'oriente vers d'autres, voilà, vers de nouveaux styles.
Quelles sont les matières premières que vous utilisez le plus, hein?
Alors, j'utilise toujours le cuir. J'utilise le laiton, donc qui est acheté brut et qui est ensuite doré à l'or fin ou argenté, donc chez un doreur. J'utilise beaucoup de lin, de coton, quelques pierres, des Swarovski. Voilà, quelques pierres, strass.
Et vos collections changent souvent ?
On a des nouvelles collections tous les 6 mois. Une collection hiver et une collection printemps-été. L'approvisionnement, alors il y a beaucoup de choses à Paris. C'est aussi ça qui me conduit à être à Paris, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs trouvent beaucoup de choses à la capitale. Ou sinon, l'approvisionnement, j'achète pas mal de matières en Italie. Italie et France. Enfin bon, c'est pas fabriqué en France, mais ça provient de grossistes français, quoi. L'Italie, puisqu'il y a des gros salons là-bas du cuir, donc, et puis en cuir, les Italiens font des très belles choses. Puis la proximité, ça s'est fait comme ça.
Donc je voulais savoir comment vous avez démarché votre clientèle, comment vous vous êtes fait connaître.
Mais je suis allée voir des boutiques. Tout simplement, avec quelques modèles qui, avec le recul, étaient vraiment artisanaux. Mais oui, voilà, enfin, je me suis un peu lancée comme ça. Je me suis pointée avec ma petite valise et puis je leur ai montré les bijoux. Donc des fois, ça a accroché, des fois pas, mais voilà, ça s'est fait comme ça.
Et au niveau de votre communication, comment vous y prenez ? Vous faites des salons ? Vous avez un site internet ?
J'ai un site internet. Enfin, j'ai jusqu'à présent un peu laissé de côté communication parce que j'étais plus dans le commercial, la prod, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on travaille un peu plus la com. Je travaille avec une attachée de presse, donc depuis quelques mois. Oui, voilà, il y a des catalogues. Bah, on fait des catalogues, oui, des brochures, des catalogues. On travaille aujourd'hui aussi des PLV, donc c'est des publicité sur lieu de vente, donc pour que les boutiques puissent s'exposer et que la marque soit plus mise en valeur.
Et quelle est votre clientèle ?
Ma clientèle directe, ce sont des boutiques. Donc, ce sont des boutiques et grands magasins. Donc, boutiques multimarques. Donc, c'est des gens qui ont soit une boutique, soit 2, 3 points de vente. Et ensuite, en grands magasins, c'est les Galeries Lafayette. Et en termes de clientèle finale, bon, c'est des femmes. Ça, c'est logique, puisque c'est des bijoux pour femmes. Et je dirais plutôt, enfin, si je m'en tiens à des statistiques sur ma page Facebook, la tranche d'âge la plus présente sont les 25-35 ans. Bon, après, ça s'étale un peu, mais je pense que c'est dans ces eaux-là, quoi.
Et une fourchette de prix sur vos accessoires ?
Oui, alors en magasin, ça se situe pour un petit bracelet aux alentours de entre 15 et 25 euros. Et pour des plus grosses pièces, dans les 130 euros à peu près.
Une petite question en plus, Julie. Comment vous envisagez l'avenir ? Comment vous allez développer votre entreprise ? Comment vous allez vous y prendre ?
Oui, là on est un peu j'essaye de faire un peu évoluer l'entreprise. J'ai une petite touche personnelle, c'est que j'ai un bébé qui a 8 mois, et quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit bon, il y a un truc là, c'est que je vais pas pouvoir continuer à faire le commercial tout seul et aller voir mes clients. Donc du coup, j'ai commencé à travailler avec des agents commerciaux. Donc ils sont pas salariés, ils sont c'est des VRP en fait, hein, qui tournent. Oui, on peut dire freelance, qui sont rémunérés à la commission. Enfin, uniquement la commission sur vente. Et du coup, je travaille avec 3 agents en France, un aux Pays-Bas et un depuis peu de temps en Australie. Donc, on se développe un peu à l'international. Donc, ça commence un peu à se développer. Et pour l'avenir, c'est plus sur la production où j'essaye de faire évoluer les choses.
Vous faites appel à d'autres techniques, à d'autres...
Alors, j'essaye de faire appel à d'autres techniques, mais il faut toujours garder en tête... Les clients nous connaissent pour une chose, et j'ai déjà essayé de faire des choses un peu différentes. ça marche moins. Donc il faut essayer d'évoluer, mais il faut garder quand même ça. Voilà, ça, ouais. Sinon ils s'y perdent et ça va pas trop quoi. Donc mais j'essaye surtout de faire évoluer la production. J'essaye de faire sous-traiter parce qu'on a une activité qui est assez saisonnière quand même. C'est-à-dire qu'on en ce moment on est en période de livraison. Dans la livraison des collections d'été. Et bah, tous les clients, forcément, veulent être livrés en même temps. Donc, ça demande soit de préparer du stock en amont, soit de doubler les effectifs en période de livraison. Et j'essaye de, voilà, pour ça, de faire sous-traiter un peu plus la production, de trouver des fabricants externes à mon entreprise.
En France ?
La question, c'est que... Alors, on va me montrer du doigt. Mais non, j'ai rencontré des fabricants français, mais ça passe pas. En termes de prix, c'est impossible pour moi. Par rapport à la gamme de prix que j'ai fixée, ça explose tout, quoi. Et je peux pas. Donc, j'essaye de m'orienter plutôt vers les pays de l'Est, ou le Maroc. Sachant que c'est assez proche quand même, qu'ils proposent des quantités pas trop élevées. Et, que, voilà, ça reste une sous-traitance de proximité quand même. Donc, voilà.
Mais vous allez faire évoluer doucement vos prix puisque vous étiez en train de constater que c'était trop juste, hein, les marges n'étaient pas suffisantes pour vous permettre d'assumer les nouvelles charges liées au nouveau statut de la société.
Oui, ouais, c'est j'essaye. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire sur les nouveautés, en tout cas, en expliquant que voilà, c'est pas possible de. Il y a un moment donné où ça coince, quoi, quand on veut évoluer, quand on nous a souhaité ici, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de charges.
Et dernière question, est-ce qu'il y a un bijou que vous aviez créé au départ qui est toujours dans vos collections ?
Oui, ouais, ouais.
Alors, lequel ?
Alors, j'en ai un en cuir. C'est une petite gourmette en cuir avec chaîne et cuir. C'est un modèle très simple, mais il continue à marcher. Et il marche bien parce qu'il se décline dans plein de couleurs et c'est un petit bracelet assez fin, des choses comme ça. Ça c'est là depuis longtemps, c'est des petits bracelets assez simples.
Ce qu'on voit, ce sont des petites lanières de cuir très fines de plusieurs couleurs, hein, vert, bleu, rouge, etc. Et au milieu, il y a de petites chaînettes assez fines aussi et ça fait des bijoux très, très jolis, très raffinés. Et on voit aussi sur le catalogue des choses un petit peu plus larges, mais qui sont toujours sur la base d'un lien fin. Donc c'est vraiment on vous engage à aller voir sur le site de Julie. Ce sont vraiment des très, très jolis bijoux, aussi bien des bracelets que des colliers ou des boucles d'oreilles. Voilà. Eh bien, allez voir.
Sur le site semilunaire.com, voilà.
Alors, la tendance de cet été, Julie, c'est quoi ?
Alors, la tendance de cet été, c'est un peu... Non, je ne vais pas dénoncer mon propre secteur, mais bon, ça revient. Hein, en tout cas, en termes de couleurs, c'est tout le temps plus ou moins les mêmes choses. Là, on a des fluos. Enfin, je travaille beaucoup les fluos en été. Des pastels, des couleurs pastels. Et en termes de tendance, on a, les manchettes reviennent bien, les bracelets larges. Et puis, moi, je vends très bien aussi les petits bracelets multitours qui sont assez fins, mais qu'on peut en fait accumuler, quoi. On peut en mettre plein, puis on les garde, en fait. C'est ça aussi qui marche chez moi.
Julie, 5 ans après, quel bilan vous tirez ? Est-ce que vous êtes ravie ? Est-ce que vous recommenceriez ? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, là ?
Non, je regrette pas, déjà. Je regrette pas du tout. Des choses que je ferais différemment, je pense que, oui et non, mais après, je pense qu'on grandit de ses erreurs aussi. On en fait forcément, et avec le recul, on se dit, peut-être que j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais finalement, je suis toujours là, donc c'est qu'il y a un moment donné j'ai pas la recette miracle, en tout cas, c'est sûr que actuellement, je crée une autre société, je m'y prendrais pas de la même façon. Mais en tout cas, je m'y prendrai pas de la même façon. Je ciblerai un produit et puis je miserai tout. Enfin, peut-être pas. En fait, je sais pas. Mais
vous êtes trop dispersée, en fait. Le conseil qu'on peut donner, peut-être, c'est de bien choisir son créneau et de s'y tenir et de rester à l'intérieur, de développer à l'intérieur, d'être lisible pour l'extérieur, d'avoir une identité. C'est ça que vous voulez dire.
Le mot lisible, c'est bien, ouais. C'est justement, c'est vrai que j'ai tendance un peu à m'éparpiller parce que j'ai des idées, j'ai envie de tout sortir en même temps, et du coup, des fois, je vais dans plein de choses en même temps, en termes de création, je veux dire. Et après, je me retrouve avec plein de produits, mais il y en a 20% qui marchent, quoi. Enfin, qui marchent. Je vends à peu près tout, mais ouais, il y a des produits phares. De toute façon, j'ai appris une règle en école, durant mes études de commerce, c'est, vous avez parlé de la règle des 20-80, c'est qu'en fait, sur la totalité, 20% des ventes représentent 80% du chiffre, quoi. Et ça se vérifie. En tout cas, pour moi, c'est sûr que 20% de mes produits, c'est ce que je vends le plus, quoi.
Essayer de trouver une ligne, c'est la recette, peut-être.
Oui, si on peut parler de recette. Je ne sais pas s'il y en a une, mais c'est vrai que des fois, il faut savoir se garder des idées de réserve pour se garder de la marge. Et puis, effectivement, l'idée d'être lisible, en fait, que les clients reconnaissent le produit et se disent « Ah, ça, c'est semi-lunaire, oui, c'est identifiable. » Et voilà.
Merci, Julie. Et bonne chance pour la suite.
Pour découvrir toutes les créations de Julie, vous pouvez visiter son site internet, donc c'est www.semilunaire.com.
Tout attaché.
Tout attaché, semilunaire. Et abonnez-vous sur sa page Facebook. Je laisse la parole à Annie pour la voix du jour.
Alors, la voix du jour, c'est devenu une tradition dans Fenêtre sur Cour, sur Couleur FM, de vous faire entendre des voix célèbres, des voix qui ont compté. Et aujourd'hui, restons dans la mode, restons dans l'élégance avec Coco Chanel.
Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ?
Ah, permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, comprenez, je crois que c'est le don que je possède, enfin si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai.
C'était Coco Chanel, et maintenant notre partie agenda.
Le spectacle est fini pour ce soir. Passons à d'autres attractions.
Retour vers le passé avec le Conservatoire du Patois des Terres Froides. Ces passionnés patoisans donneront un spectacle moitié français, moitié patois, le samedi 12 avril à 20h et le dimanche 13 avril à 14h à la salle des fêtes de Flachère. Uzon To Chamboula, voici le nom de leur spectacle et l'entrée est à 7 euros. Pour ceux qui n'ont pas compris, on peut traduire, ils ont tout chamboulé.
Une petite info au niveau de la Cité de la CAF à Bourgoin. Donc du 31 mars au 7 avril, nous avons dans nos murs une exposition sur les gens du voyage, donc en partenariat avec l'association APMV. Et nous avons aussi la joie d'accueillir un groupe de gens du voyage le 7 avril, lundi 7 avril à 14h dans nos locaux, pour pouvoir échanger physiquement, en face à face, en table ronde, avec des femmes du genre du voyage qui vont nous parler de leur quotidien. On va pouvoir leur poser plein de questions, parce qu'on a plein de questions d'a priori ou de méconnaissances. Donc voilà, des échanges très intéressants. Deuxième info, une grande manifestation autour de la parentalité, de la famille, qui s'appelle 1, 2, 3 familles, donc s'informer, échanger, se distraire en famille. Deux temps forts, donc le vendredi 11 avril à 20h à l'auditorium de la maison du département sur la thématique « La réussite de nos enfants, parlons-en ». Et le samedi 12 avril, grande journée de 10h à 18h à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu sur les rythmes de l'enfant et les temps familiaux qui seront organisés avec des stands, des tables rondes et une petite restauration. Entrée libre et gratuite pour tous. Autre information, où la Cité de la CAF est partenaire aussi, c'est le Carnaval de Bourgoin, qui se fera le mercredi 30 avril 2014. Rendez-vous 13h45 rue Piétonne, départ du défilé 14h, avec une arrivée à 15h Parc des Lilates, sur le thème « Au rythme du Brésil ». Autre petite info.
Il y a plein d'infos si vous voulez faire votre marché. Il y a plein de choses qui se passent chez nous. Si vous aimez la peinture, il y a une exposition 5 et 6 avril à Saint-Savin à la salle Henri Copart de 10 à 19h gratuit. Si vous aimez la récup, l'association Écolégramme a une semaine festive matériaux de récup sous toutes ses formes. Si vous aimez la danse, on a parlé d'Odile Perrin tout à l'heure, elle organise un stage le dimanche 13 avril de 10h à 17h dans la nature pour 40 euros. Il faut s'inscrire avant le 7 avril. Si vous aimez l'humour, à Villefontaine, salle Daniel Balavoine, le 25 avril à 20h30, il y a une soirée humoristique avec les Love Trotters. Si vous aimez le jardinage, je crois qu'il y a des choses aussi sur Villefontaine avec l'arrivée du printemps. Et il y a même, je veux dire, une journée, vous pouvez relever le défi de la journée en faisant une belle photo sur un thème imposé en seulement 2 heures.
Également, Monsieur Ravra nous donne une info. 18 et 19 avril, printemps des musées. Donc le musée de Bourgoin sera ouvert, peut-être avec une démonstration d'impression. Donc si vous voulez voir tout ça, vous pouvez vous présenter au musée 18 et 19 avril.
Et c'est gratuit?
Gratuitement.
Autre petite info vite fait, pendant qu'on est dans le printemps, avec Klaus Badinière, avec l'association De Quoi Je Me Mêle, il y a une grande journée festive le samedi 12 avril 2014 aussi, à partir de 14h entrée libre, où il y a des ateliers créatifs, un trocoplan très intéressant, stand d'apiculture, animation nature, spectacle, jeux, clowns, concerts, donc très sympathique comme journée pour sortir de chez soi le week-end.
Et je crois que c'est aussi intéressant parce que c'est accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Et dernière petite info, il y a une bourse aux vêtements de printemps à la salle polyvalente de Champaret du mardi 1er au vendredi 4 avril. Et pour donc information, si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez venir tous les lundis matin à 9h à la Cité de la CAF pour préparer les émissions.
À la prochaine fois.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.